Le pacte européen s'est construit autour du charbon et de l'acier. Aujourd'hui, comment doit-il se construire ou se reconstruire ?
Le pacte européen, oui, c'était un grand événement qui était déjà du fédéralisme, mais peut-être aujourd'hui, on regarde cela comme quelque chose d'un petit peu dangereux parce que pour la France, le fédéralisme n'est pas encore de mise et pourtant, c'est vers ça qu'il faudra aller.
En même temps, est-ce que le phénomène de globalisation, de développement économique est compatible avec ces notions d'une Europe humaniste ?
Tout à fait. Le phénomène de globalisation demande de revoir un peu nos schémas. Les gens du Nord sont quand même très riches. Est-ce que nous sommes prêts à réduire notre train de vie pour partager avec ceux qui en ont moins que nous et qui ont le droit d'être aussi heureux que nous ?
Il y a urgence à œuvrer pour un développement social de l'Europe ?
Oui, je pense qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Le soubassement de la paix, c'est la justice. Qu'est-ce qu'ont fait les pères de l'Europe ? Ils voulaient faire la paix et nous en profitons encore aujourd'hui. Ils ont commencé par le charbon et l'acier, qui était la base de la civilisation à ce moment-là européenne, puisque c'était les matières moteurs de l'économie.
Vous avez le sentiment que le projet européen s'est quelque peu éloigné du message de la vision des pères fondateurs de l'Europe ?
Ah oui, on n'a pas repris les grandes idées des pères de l'Europe, qui étaient très concrets. La réalité, c'est qu'ils ont construit la paix à partir de l'économie, mais l'économie mise au service de l'homme.
Donc ces bases que l'on a perdues ?
On a privilégié l'avoir contre l'être. On a oublié qu'on était en train de coaliser, comme disait Jean Monnet, unir des personnes. Et c'est ça qui était le plus important. Il faut aller au-delà de cet anniversaire et peut-être profiter de cet anniversaire pour relancer la route de l'Europe.
Relancer notamment la Constitution, par exemple.
Oui, il y avait de très bonnes choses dans la Constitution européenne. On l'a envoyée promener. Elle était trop longue. C'est vrai, une constitution, il faut que ce soit quelques pages, surtout si on fait des référendums.
Ce sont des hommes, des figures qui ont bâti ce grand projet européen, un projet audacieux 12 ans seulement après la fin de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont ces figures emblématiques qui manquent à l'Europe ?
Alors, les traités de Rome, c'est pas un départ. Le départ, c'est 1950. Robert Schuman avec Alcide Gasperi, Konrad Adenauer et Jean Monnet.
Alors sur ces figures emblématiques, est-ce que c'est ce qui manque aujourd'hui au projet européen des figures ?
Oui. C'est comme un jeu olympique. On se passe le flambeau. Il faudrait se passer la flamme européenne. Seulement, les générations qui viennent ignorent l'histoire de l'Europe, bien souvent. Pourquoi on a voulu faire cette Europe en 1950 ? Il faut aussi voir que nous sortons d'une période historique de trois guerres. Aujourd'hui, nous devons être véritablement des ferments de paix pour nous-mêmes, pour l'Europe, mais aussi pour le monde. Parce que les trois guerres ont mis le feu dans le monde. C'est quand même des chrétiens qui ont fait ces guerres terribles, fratricides, qui ont conduit aux pires horreurs. On a quelque chose à se faire pardonner. On regarde l'Europe.
Ce rayonnement aujourd'hui, il est quand même encore très faible par rapport notamment aux États-Unis. On le voit dans les conflits en Afghanistan,
oui.
En Irak.
C'est vrai que l'Europe est très timide parce qu'elle ne parle pas d'une seule voix. Dans la déclaration du 9 mai 1950, vers la fin, il y a l'ouverture vers la Méditerranée et vers les pays africains. Robert Schuman n'a pas oublié justement les pays en voie de développement.
En même temps, parler d'une seule voix à 27, est-ce que c'est possible ? Est-ce que ce n'est pas une utopie ?
Il y a des problèmes d'organisation, mais cela oblige à se départir des orgueils nationaux, aussi un peu de sa souveraineté. Mais si on gagne beaucoup plus de souveraineté mondiale et collective, pourquoi pas ? Eh bien, il faut prendre les moyens.
Est-ce qu'il ne manque pas aujourd'hui à l'Europe, comme c'était le cas il y a 50 ans, un vrai projet commun ?
Je ne vois pas la chose comme ça. Oui, c'est vrai, on entend ça, un vrai projet commun. Mais il y a le projet Europe est là. La culture européenne a toujours été là. C'est nous qui ne savons pas l'avoir. Quand on voit l'histoire de nos pays et l'histoire de ce continent, on s'aperçoit qu'il y avait une circulation entre nous qui était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui.
Quelle a été la contribution du Saint-Siège à cette construction européenne? On sait que dès le départ, le Saint-Siège a eu un rôle important dans ce grand projet.
Oui, le Saint-Siège était très intéressé par cette question, parce que l'Europe, c'est aussi l'Europe chrétienne. Oui, le Saint-Siège a eu une part importante. Même certains anticléricaux ont reproché au moment de la déclaration de Robert Schuman et que c'était l'Europe violette. L'Église voyait ça d'un très bon œil. Pie XII, qu'on a peut-être un peu décrié, Pie XII a été quelqu'un qui a probablement favorisé ce commencement, disons, d'une reconstruction, parce que nous revenions de loin.
Les choix des deux derniers papes, Jean-Paul II, le Polonais, Benoît XVI, l'Allemand, est un signe fort pour l'Europe.
Oui, je pense que ça a été un signe fort aussi pour l'Église, mais ça a été aussi un signe fort pour l'Europe, oui.
Mais l'Europe de demain doit être une Europe œcuménique, mais aussi interreligieuse.
Oui, œcuménique et interreligieuse. Nous ne pouvons plus maintenant ignorer qu'il y a 15 à 20 millions de musulmans dans l'Union européenne, plus ou moins. Par exemple, vous avez en Allemagne 3 millions de Turcs, dont 1 million dans la ville de Berlin, qui est devenue la deuxième ville de Turquie après Ankara et avant Istanbul.
Mais le socle de l'Europe était à la fois le respect des droits fondamentaux, mais aussi le christianisme. Ce n'est plus vrai aujourd'hui ?
Non, je pense que c'est dans le vent de l'histoire. On ne peut plus s'opposer.
Le respect des valeurs chrétiennes de l'Europe, c'est une question qui préoccupe Benoît XVI depuis le début de son pontificat.
Je comprends que Benoît XVI rappelle toujours les valeurs chrétiennes de l'Europe parce que il voit bien que chez les chrétiens, aujourd'hui, perdent les valeurs. C'est plutôt le matérialisme qui domine. Mais il y a aussi des valeurs dans l'islam. Moi-même, j'ai vécu presque 20 ans dans un pays islamique et je ne me considère pas avoir été amputé de mes valeurs. Au contraire, les valeurs des uns et des autres souvent se rejoignent.
C'est une âme qu'il manque aujourd'hui à l'Europe ?
Je crois que l'Europe a une âme. Ce qui manque, c'est de la découvrir. Et c'est ça le plus important.
Et quelle est cette âme ?
C'est l'âme de toujours. Nous sommes acharnés, peut-être à l'assassiner, quelquefois. Nous avons besoin de purifier notre regard pour pouvoir découvrir ce qui a existé et ce qui existe encore aujourd'hui. Le 50e anniversaire des traités de Rome, c'est une chance et une espérance aujourd'hui pour nous, Européens, pour redécouvrir ce que nous sommes et pour regarder aussi ce qu'il nous reste à faire et de se mettre au travail pour devenir encore davantage européen et que l'Europe puisse porter véritablement ce message de paix, de justice et de liberté dans le monde.